Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre sur le podcast Il était quelquefois. Dans le chapitre précédent, vous avez eu une petite, une petite interlude comme ça. On est retourné vite fait à Fribourg en 2005, surtout pour rencontrer en fait les enfants de Luce. Alors vous allez voir, ça paraît être un chapitre un petit peu sorti de nulle part comme ça, mais il a une importance, vraiment une grande importance. Peut-être que là, tout de suite, vous vous en rendez pas encore compte, mais il a une grande importance. Mais aujourd'hui, promis, je vous ramène au Verne en 1947, vu que, souvenez-vous, dans le chapitre, encore avant, donc le chapitre 26, Lilou a entreaperçu quelque chose dans l'atelier d'Antoine, et visiblement, ça l'a beaucoup remué. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 28, Les Vernes, printemps 1947. Dans mon champ de vision, j'avais le moelleux divan en cuir pêche, mais celui-ci étant tourné vers l'avant, je ne vis d'abord rien d'autre que le dos de cet immense canapé, comme un rempart. Puis, une tête blonde apparut, et je compris que Valentine, d'abord étendue, se rasseyait. Elle se mit à parler à Antoine que je n'apercevais pas encore. Je voyais juste la nuque de son invité. Elle secouait la tête et agitait les bras, puis soudain elle se leva et je la vis de profil. Elle pleurait. Antoine s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Elle le serra longtemps contre elle, s'agrippa à lui comme à un rocher. Elle semblait toute petite dans ses bras, et il posa sa tête sur la sienne en murmurant des paroles que, bien sûr, je ne compris pas. Ils restèrent longtemps ainsi, elle, toujours secouée de sanglots, et lui, souriant et tentant de la réconforter. Après quelques minutes, Joseph réapparut dans l'embrasure de la porte, et c'était au tour d'Antoine de quitter les lieux, son propre atelier, pour laisser Valentine à son chagrin, dans les bras de son frère. Ne voulant pas qu'Antoine me voie perché ainsi et décidant que j'en avais assez vu, je quittai mon observatoire. En continuant de tourner la terre du jardin, le cœur en fête, je repassais toute la scène dans ma tête. Antoine avait fait part à Valentine de ses sentiments pour moi. Anéantie, elle était tombée sur le divan afin d'y pleurer tout à son aise, puis s'étant relevée, elle s'était accrochée à lui et il n'avait eu d'autre choix que de la prendre également dans ses bras afin de la consoler. Je compris qu'il avait sans doute prévenu Joseph à l'avance et lui avait demandé de revenir plus tard afin de soutenir sa sœur. C'est pourquoi elle s'était jetée dans les bras de son frère à son arrivée. Je ne ressentis aucune compassion pour elle. J'aimais Antoine et il m'aimait, j'en avais maintenant la preuve flagrante. De toute façon, me dis-je, sa beauté était telle que je ne me faisais pas de soucis. Elle allait faire tourner les têtes de tous les hommes et se consolerait sans doute bien vite dans les bras d'un autre. Je redoutais et espérais à la fois notre prochaine rencontre. Sans doute allait-elle me faire sentir son animosité, sa rancœur, sa jalousie. Mais elle ne pourrait rien faire d'autre que me cracher son venin. Clara, sans le savoir, serait mon bouclier. « Pauvre Clara !» me disais-je parfois avec un petit sourire de pitié. Elle perdait sur tous les tableaux. Son mari quittait une maîtresse pour une autre, bien que le terme de maîtresse ne me convienne pas. Je ne voulais pas qu'Antoine me considère comme il avait sans doute considéré Valentine, une amoureuse secrète, une femme pour assouvir ses besoins d'homme, puisque Clara semblait peu encline au rapport charnel. Je ne savais alors pas encore comment nous allions organiser notre vie future, lui et moi, mais ce que je savais, c'est que nous serions tout l'un pour l'autre. Dans ma tête, je planifiais parfois l'avenir qui pouvait changer au fil de mes humeurs, mais toujours nous trouvions une solution pour rester au Verne. Je ne voulais pas quitter cette grande demeure encore inachevée. Pour moi, elle symbolisait le bonheur et des nuits entières. J'imaginais notre vie ici. Les changements que nous allions apporter, les balades dans les environs, main dans la main, ne voyant que l'autre, ne nous intéressant que l'un à l'autre, sans même remarquer nos voisins, les villageois qui, sans doute, nous admireraient et nous envieraient. Peut-être Armand resterait-il avec nous ? Je n'avais pas encore d'idée bien précise à son encontre. Rosalie et Basile, bien sûr, resteraient à notre service. Je serais une patronne moins permissive que Clara, mais tout de même tolérante. Bizarrement, aucun enfant ne se manifestait dans mes rêves éveillés. Sans doute, me dis-je, parce que, étant moi-même encore presque une enfant, je ne me voyais pas encore en mère de famille, mais cela viendrait plus tard. Était-ce dû à ma propre enfance ? En tout cas, au contact des enfants, petits ou grands, je ne ressentais qu'indifférence ou impatience. Ces petits êtres prenaient, à mon avis, beaucoup trop d'importance dans la vie de leurs parents. Pendant les jours qui suivirent, je ne vis Valentine que fort peu. Elle s'en allait le matin, comme toujours, faire sa promenade dans les bois jusqu'à la falaise, puis l'après-midi, elle accompagnait souvent Clara en ville. Elle ne mangeait presque jamais à la maison à midi, et quand cela arrivait, Valentine ne me traitait pas indifféremment d'auparavant. Cette absence d'animosité, au début, m'intrigua. Elle semblait être la même, plus pensive, un peu plus mélancolique. mais dénuée de jalousie. Elle est encore sous le choc, pensais-je d'abord. Puis, comme cet état d'esprit persista pendant quelques jours, je me fis une autre réflexion. Sans doute, Antoine ne lui a-t-il pas dit pour qui il la quittait ? Bien sûr ! Avec raison, il avait omis de mentionner mon nom. Après tout, je n'avais pas encore 18 ans, j'étais à leur service, du moins pour le moment, et ils ne voulaient pas m'impliquer. Je compris alors l'attitude plutôt distante d'Antoine envers moi, car je dois avouer que cette froideur à mon égard m'avait blessée. Il voulait simplement me laisser en dehors de tout cela, me protéger, comme il l'avait fait depuis mon arrivée. Une chose me sembla tout de même étrange. Après l'annonce de la rupture, je pensais que les jumeaux allaient refaire leurs valises et retourner en Suisse, ce en quoi je me trompais, et ma belle humeur retomba quelque peu. En effet, non seulement ils restèrent, mais les après-midi et les soirées passées entre amis après un temps de flottement semblèrent reprendre avec encore plus de vigueur et de décontraction qu'avant. Je ne savais trop que penser de tout ça. Premièrement, malgré quelques tentatives de ma part, Antoine ne chercha pas une seule fois à entamer le dialogue avec moi. Pire, il semblait presque m'éviter, comme si nous étions des étrangers l'un pour l'autre. Souvent, pourtant, je repensais avec nostalgie à nos nombreuses promenades dans la campagne environnante, quand nous étions si proches l'un de l'autre, quand il recherchait ma compagnie. Je comprenais bien qu'il ne désirait pas attirer les soupçons sur moi, mais ce traitement me pesait tellement que j'hésitais à lui en parler. Il devait pourtant se rendre compte à quel point je me sentais seule et triste sans lui, sans ses bras autour de moi. Mais quand je le croisais, inopinément, dans un escalier ou près du jardin, qui devenait une pure merveille, il se contentait de me sourire, comme il le faisait avec tout le monde, et passait son chemin. Pourtant, je m'arrêtais pleine d'espoir à chaque fois. Puis arriva une chose apparemment anodine, mais qui revêtirait toute son importance plus tard. Rosalie, pratiquement du jour au lendemain, nous quitta. Sur le moment, ce départ ne me fit ni chaud ni froid. J'appréciais Rosalie pour son efficacité, mais nous n'étions jamais devenus des amis, loin de là. Pour moi, de toute manière, l'amitié n'existait pas, je le savais depuis toujours. Même à l'école, toute petite, on me laissait dans mon coin et je ne m'en portais pas plus mal, ne cherchant jamais la compagnie de mes camarades de classe. Je savais très bien qu'on ne pouvait compter que sur soi-même et je lançais des regards peu amènes à celles et ceux qui tentaient de s'approcher de moi. Je pensais à l'époque que mes frères et sœurs étaient habités du même état d'esprit. Notre enfance nous avait façonnés ainsi, durs et résistants dès notre plus jeune âge, afin de survivre à l'ignominie. Comme j'avais dû mobiliser toutes mes forces pour prendre soin de moi, puisque je ne pouvais guère compter sur mes parents pour ce rôle, je pensais qu'il en était de même pour mes frères et sœurs, ce en quoi je me trompais bien sûr. Mais nous n'en sommes pas encore là. Un matin de mai, Rosalie, sa valise à la main, monta dans la voiture de Clara, direction la gare, et nous ne la revîmes jamais. J'aurais pu, peut-être, m'approcher d'elle. J'étais sortie sur le pas de la porte, curieuse, mais le regard que Rosalie me lança, un regard chargé de reproches et d'animosité, me retint. Depuis fort longtemps, je le savais, elle était amoureuse de Basile et voyait bien que ce dernier semblait de plus en plus subjugué par moi. Sans doute en avait-elle conçu de la rancœur à mon égard, bien que je n'y puisse rien. Basile ne m'intéressait absolument pas, et rien que d'imaginer qu'une femme comme Rosalie puisse voir en moi une rivale me fit sourire de pitié. C'est malheureusement à ce moment-là qu'elle leva les yeux vers moi. Prit-elle ce sourire comme une ignoble marque de triomphe de ma part ? Je ne saurais le dire car aussitôt, Clara qui m'avait aperçue également me fit signe de rentrer, prit Rosalie par le bras et l'aida à monter en voiture. Je restais pourtant plantée sur le pas de la porte, ébranlée par ce que je venais de voir, et Clara, en faisant le tour de la voiture afin de s'installer au volant, me lança un long regard où se disputaient l'incompréhension et la déception. Et Rosalie disparut de ma vie. Cette fille, forte et bien en chair à mon arrivée, toujours occupée, travailleuse, les pieds sur terre, avait bien changé ces derniers temps. Elle avait maigri, ce qui ne lui allait pas du tout, et perdu sa vivacité. Son travail, je dois le reconnaître, ne s'en était pas ressenti, mais elle, qui ne parlait déjà pas beaucoup, était devenue de plus en plus taciturne. Clara, plusieurs fois, avait tenté de lui parler, mais Rosalie ne s'épanchait pas facilement. Sans que je m'en rende véritablement compte, elle et moi en étions venus à ne plus nous parler du tout, sauf quelques mots concernant nos tâches respectives, mais pas plus. Basile, depuis plusieurs mois, ne s'intéressait plus du tout à elle et me suivait comme un petit chien. J'aurais pu dire à Rosalie que cette attitude m'horripilait, mais je n'en fis rien, et je constatais que, plus encore qu'à Basile, elle m'en voulait à moi, me tenant sans doute pour responsable de cette attirance. La croisant parfois dans les couloirs ou près du jardin, je m'étais bien aperçue de ses regards noirs, pleins de reproches. Mais je n'en avais pas tenu compte, trop occupée par mes propres problèmes. J'aurais sans doute dû signifier à Basile, dès ses premiers balbutiements amoureux, mon absence totale d'intérêt pour lui. Mais je dois bien avouer que l'attention dont je faisais l'objet me flattait. Cet homme de 10 ans plus âgé que moi, qui non seulement me couvait des yeux, mais obéissait de plus à toutes mes demandes, m'était finalement assez utile jusque-là. Après le départ de Rosalie, que je n'aurais pas cru encline au chagrin d'amour, il devint cependant plus pesant, trop pesant à mon goût. Je faillis plusieurs fois m'en ouvrir à Antoine afin qu'il le remette à sa place, mais finalement je n'en fis rien, persuadée que les choses allaient s'arranger, quand Basile comprendrait le lien qui nous unissait, Antoine et moi. Ce ne fut bien sûr pas le cas.